Bonjour à tous. Ceux que je n'ai pas vus, voilà. Bonjour tout seul, c'est ce qu'il faut dire. Exactement, il faut toujours dire ça. Je vais vous inviter à prendre, on poursuit encore dans Galates. On avance. C'est Galates 3, cette fois-ci, les versets 1 à 14. Alors le premier qui trouve la page sur les Bibles rouges et blanches, le dit aux autres, Galates 3, les versets 1 à 14. Oula, comment ça fait ? 763 ? D'accord, donc page 763 pour les Bibles habituelles. Donc, Galates 3, les versets 1 à 14. Merci Christian. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole et nous te prions pour que ton esprit renouvelle ta parole en nous, pour que nous puissions être illuminés par ta grâce et comprendre ta parole. Dans le nom béni de Jésus-Christ. Amen. Alors c'est vrai que le problème de la prédication textuelle, c'est que l'on peut tomber soit dans des détails théologiques importants ou un peu de la répétition. Des prédications d'avant, mais il convient quand même de rappeler certaines choses. Nous sommes là dans un moment intéressant, un passage important dans Galates. Dans les passages qui précèdent notre lecture de ce jour, Paul partage avec les Galates toute son expérience personnelle, sa conversion, son appel, le combat qu'il a mené pour l'Évangile, jusqu'à même se confronter avec l'apôtre Pierre lors d'un incident à Antioche sur la foi. Et finalement, tout cela le conduit à affirmer aux Galates la puissance de l'Évangile pour le salut et la vie chrétienne. Cela l'amène à cela, à affirmer la puissance de la foi, notamment dans les versets 16 et 21 du chapitre 2, hein, où on revoit ça rapidement. Cependant, nous avons compris qu'on est déclaré juste devant Dieu, non parce qu'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. Et là, Paul revient à sa stupéfaction. Après avoir annoncé tout cela, après avoir montré la puissance de l'Évangile, il revient à sa stupéfaction première dans ce passage du jour. Il revient sur l'attitude des Galates vis-à-vis de l'Évangile et, pour être vraiment plus précis, sur leur retournement, leur revirement encouragé par les judaïsants. Vous savez, les judaïsants, c'est l'évangile plus, c'est ce que j'appelle l'évangile plus, c'est-à-dire l'évangile plus la loi. Ouais, si tu veux vraiment être parfait, ouais, d'accord, t'es sauvé, pardonné, ok, mais si tu veux vraiment avancer et être parfait, il faut que tu te soumettes à la loi de Moïse. C'est comme ça que dans le chapitre 1, le verset 6, où Paul dit « Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ », fait écho à ce qu'on vient de lire en versets 1 et 3, où il traite les Galates d'insensés, envoûtés, stupides. Ils en prennent plein leur grade, mais c'est à la hauteur de la surprise de Paul, de ce revirement des Galates, cette surprise, cette profonde stupeur, profonde inquiétude de Paul pour eux. Et en fait, quel est le problème? Parce qu'en fait, les lettres sont écrites avant tout pour répondre à des questions des églises ou à des problèmes. Elles sont avant tout pastorales, elles ne sont pas théologiques. Elles répondent à un but, à une situation précise que traverse l'Église. Et pour ce faire, pour répondre, Paul va utiliser ce qui est pour nous le pain de vie, la parole de Dieu, qui nous révèle ce que Jésus a accompli au nom du Père et ce qu'il accomplit tous les jours par l'Esprit Saint en nous. Alors le problème ici, c'est que les Galates, eux, ne s'appuient pas seulement sur ce qui fait l'essence même de la vie chrétienne, Jésus-Christ, dans un évangile qui libère. Non, pour obtenir les faveurs de Dieu, donc la justification, et grandir dans la foi, ils veulent s'appuyer sur leur propre force en pratiquant la loi de Moïse, encouragée par ceux que l'on appelait donc les judaïsants, qui disaient « Jésus plus la loi ». C'est un retour en arrière, en quelque sorte, au verset 3, c'est ce que va dire Paul. Il va leur dire « Manquez-vous à ce point d'intelligence, après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, est-ce en comptant sur les ressources, vos propres forces, que vous allez continuer, terminer ?» Ils veulent s'appuyer donc sur leur propre force, un retour en arrière. Un peu comme si ce discours était en eux, que l'on avait inculqué, c'est bien, vous êtes sauvés, c'est super, en Jésus, d'accord, vous êtes pardonnés. Bon, mais maintenant, pour aller plus loin, il faut absolument que vous appliquiez la loi et la loi. Jésus, c'est bon, ça y est, c'est fait, maintenant pratiquons la loi. La dernière fois, on avait vu notre incapacité première à pratiquer cette loi de Moïse, parce qu'elle s'inscrit tellement dans notre cœur que quand il est dit « tu ne commettras pas de meurtre », Jésus rajoute sur le serment sur la montagne que même être en colère contre son prochain, c'est déjà avoir une attitude meurtrière. Donc, impossible pour nous d'accomplir la loi. Donc, il y a un non-sens. Mais on peut se poser la question, mais quelle est la modernité de ce problème? En quoi cela peut-il concerner l'homme de la rue aujourd'hui et nous, chrétiens du XXIe siècle? En quoi cela nous concerne? Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, c'est rare. Vous allez dans la rue, sur les 60 millions de Français, ceux qui vous diront oh « ouais, moi, j'ai lu l'Ancien Testament, je pratique la loi de Moïse pour obtenir les faveurs de Dieu ». Je crois que dans la rue, on va très peu rencontrer de gens qui vont nous dire ça, ou même si vous leur dites « tu seras sauvé par la foi seule en Jésus-Christ et non par la pratique de la loi de Moïse », ils vont peut-être nous demander qui est Jésus et qui est Moïse. Mais en fait, c'est quand même très contemporain et ça touche l'homme d'aujourd'hui, parce que qu'est-ce qui se cache derrière? C'est bien plus profond. C'est qu'est-ce qui donne sens à la vie? Qu'est-ce qui me confère une assurance dans cette vie? Qu'est-ce qui donne le sentiment d'exister? Car c'est tout cela que nous avons, nous, en Jésus-Christ. Certains vont chercher dans une carrière professionnelle, dans une forme de succès, dans de la performance. Il y avait un athlète, et je crois que ça a été repris dans les chariots chariot de feu, qui disait « J'ai 10 secondes pour justifier mon existence ». Bon, moi, sur le 100 mètres, j'ai plus que 10 secondes, donc ça va. Chacun cherche son propre chemin, sa propre justice, sa propre loi. Il y a là quelque chose d'universel dans l'homme en cela. Il y a bien des manières de s'appuyer sur nos propres forces, plus que sur Dieu. Et je reviens sur ce que je disais la dernière fois, et ce qui sera peut-être, le sujet de groupe de maison, dans cette question du catéchisme d'Heidelberg, si on l'a posé dans la rue, la réponse serait intéressante. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort. Sur quoi reposent nos vies? Qu'est-ce qui leur donne sens? Qu'est-ce qui dit que j'existe? Et nous, chrétiens, aujourd'hui, ça nous concerne? Ah ouais, certains vont chercher à plaire à Dieu, ils vont rechercher une forme de perfection par leur vie spirituelle ou leur engagement, en ne comprenant pas qu'une partie de la justification en Jésus-Christ, en ne comprenant et en ne prenant avec eux qu'une partie de cette justification, celle relative au pardon, un peu comme si Dieu disait « Bon, allez, maintenant tu es pardonné, alors file droit. Hein, je ne veux plus entendre parler de toi, file droit, tu es pardonné. Montre que tu es pardonné et mène une vie bien, mène une vie telle que je vois que tu es pardonné. » Et là vont développer des attitudes souvent qui vont s'appuyer sur leur expérience passée, spirituelle, de conversion ou autre, un peu comme un disque qui va retourner sans arrêt sur les mêmes choses, comme si la vie chrétienne s'était arrêtée à certains instants. Sur leur performance religieuse, leur capacité en temps de prière, en discipline spirituelle. Encore une fois, ces choses ne sont pas forcément mauvaises, mais dans quel but je les pratique? Si cela est pratiqué dans l'objectif de m'assurer que Dieu m'aime toujours, cela va développer deux attitudes majeures. Une certaine arrogance spirituelle qui se décline souvent dans un jugement de la foi de l'autre, mais aussi on va vivre dans une profonde insécurité. Dieu m'aime-t-il toujours? Donc c'est bien contemporain cette question-là. Sur quoi j'appuie ma vie chrétienne? Sur le Seigneur, Jésus, ce qu'il accomplit, ou sur mes propres œuvres? Paul va apporter une réponse pastorale qui va être autour de deux axes, là. La puissance de l'Évangile agissante pour toujours, et aussi l'exemple par les Écritures d'Abraham à Jésus qui nous font vivre dans la justice de Dieu. C'est les deux points que Paul va développer avec une idée centrale. Sa réponse, elle est la suivante. Ce qui régit la relation entre les hommes et Dieu est la foi en Jésus-Christ. J'invente rien. Croire en l'Évangile de Jésus, c'est à la fois recevoir simultanément l'Esprit de Dieu, sa justice, c'est-à-dire la justice, la faveur de Dieu, Dieu nous regarde aimant, et la vie éternelle. Ma vie chrétienne, je la vis en m'appuyant sur lui et sur ce qu'il me donne. Toute autre conduite serait un retour en arrière. C'est là l'idée centrale, la force de l'Évangile de Jésus-Christ, ma foi en Jésus-Christ, m'appuyer sur lui pour vivre ma vie chrétienne de chaque jour. Alors Paul revient sur la puissance de l'Évangile au travers des questions posées dans les versets 1 à 6. Alors moi j'aime bien dans ma version parce que je vous poserai une seule question, il y a une batterie qui sort derrière, donc c'est assez intéressant, c'est du Paul tout craché. Non seulement dans ces questions-là on peut identifier le problème dont on vient de parler, mais aussi la manière dont les Galates ont reçu l'Évangile avec puissance. Cette puissance, elle est décrite par l'expérience faite par les Galates. Paul va leur rappeler ce qu'ils ont vécu lors de l'annonce de l'Évangile chez eux. Jésus-Christ leur a été présenté de manière claire et évidente. C'est ce qu'il dit au verset 1. « Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. » Ce n'est pas une évidence littérale, ils n'ont pas vu. C'est par l'Évangile prêché et entendu qu'ils ont reçu. C'est Jésus-Christ crucifié qu'ils ont vu et qu'ils ont reçu chacun. Ce n'est pas intellectuellement simplement que l'Évangile est reçu, mais on le voit bien ici, au travers des propos de Paul, ils ont été saisis, ils ont été illuminés par l'Évangile. Ils ont reçu, au verset 5, on le voit, le Saint-Esprit, en même temps qu'ils ont cru. Au verset 5, voyons, lorsque Dieu vous donne son Esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi l'Évangile ? Ils ont en même temps cru et en même temps reçu l'Évangile, reçu l'Esprit-Saint, reçu la justice de Dieu et la vie éternelle. Ils ont cru, ils ont entendu non seulement que Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix, mais en plus, ils ont cessé là, à cet instant, de s'appuyer sur leur propre force puisqu'ils étaient des païens auparavant. Ils sont passés de la chair à l'esprit. Et maintenant, ils voudraient de nouveau repasser à ce qu'ils étaient auparavant. C'est un non-sens. Après avoir goûté une telle liberté, vouloir de nouveau revenir en prison. Vous êtes libérés. Ah non, non, mais j'aimerais bien y retourner, parce que c'était pas mal. Au moins, on mange. L'évangile, sa puissance qui libère. Mais c'est pas tout. Paul va prendre l'exemple par les Écritures d'Abraham à Jésus. Paul va prendre Abraham à la fois comme modèle du croyant et pour montrer que les écrits de l'Ancien Testament vont tous dans le même sens. Ce qui est intéressant, c'est que verset 6, Abraham eut confiance en Dieu et Dieu porta sa foi à son crédit et l'a déclaré juste. Abraham, c'est 430 ans avant que la loi fût donnée à Moïse. Et il fut déclaré juste par la foi. Sans la loi, Abraham n'était pas circoncis. Rien que là, quand ce mot-là a été dit, Abraham n'était pas circoncis. C'est bien par la foi. Rien que là, nous voyons l'antériorité de la foi sur la pratique de la loi. L'épisode auquel Paul fait référence au verset 6 concerne la promesse d'une postérité aussi nombreuse que les étoiles. C'est dans Genèse 15, verset 6, que Dieu fait à Abraham. Et Abraham crut Dieu. Mais justement, là, de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle de la qualité de la foi d'Abraham ? Est-ce que sa foi a été soumise à un, excusez-moi l'expression, un foitomètre chargé de mesurer la quantité de sa foi, la qualité de sa foi, un peu comme on mesure la qualité de l'air, le foitomètre ? Mais si c'était la qualité de ma foi qui faisait la différence, alors quelque part, je retombe dans les œuvres. Puisque la qualité de ma foi dépend que de moi. Et en fonction de la qualité de ma foi, bah Dieu me déclarerait juste ou pas, oui, j'ai passé le niveau 3 dans le foitomètre, ça va, j'ai la foi, c'est bon, je suis juste. Non. Et je crois que dans la liturgie que l'on a eue et qui était très bien faite et très bien vue, dans les textes lus, dans les chants, l'essentiel est rappelé, c'est ce qui fait l'objet de ma foi qui est important. C'est ce qui fait l'objet de ma foi qui est essentiel. Il est marqué « Abraham crut Dieu ». Ce n'est pas qu'il eut la foi, c'est qu'Abraham crut Dieu. Il eut confiance en Dieu. Un jour, il m'est arrivé quelque chose, je faisais mon service militaire, je revenais en voiture, et c'était une vieille voiture que l'on avait, une 104 Peugeot, et j'arrive sur un rond-point, je freine et là, plus de frein. Là, j'ai vécu un grand moment de solitude. J'avais, vous savez, tellement confiance au frein, clac, vous appuyez, ça doit venir. J'avais confiance au frein, les freins m'ont lâché au rond-point. Heureusement, la main du Seigneur était là, il n'y avait pas grand monde sur le rond-point. De toute façon, avec la 104, je craignais pas grand-chose. Mais voilà, ce qui compte, c'est en quoi ai-je mis ma confiance, en quoi est ma foi. Ce n'est pas ma quantité de foi, c'est sur quoi elle repose. Dieu ne change pas, il est toujours le même. Il est celui qui non seulement transforme des vies, mais aussi donne tout ce qu'il faut par son esprit pour renouveler notre foi et nous faire grandir. Bien souvent, nous nous voyons pardonner, mais nous vivons avec le sentiment que finalement je dois mériter maintenant la confiance de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, je suis pardonné, mais il faut que je file droit. Nous sommes libérés en Christ, nous sommes les premiers à le dire, mais est-ce que nous mesurons la profondeur de cette liberté ? Ce n'est pas l'écrivain biblique qui va dire « Abraham est juste ». C'est Dieu qui va déclarer juste Abraham. Quelle que soit la qualité spirituelle d'Abraham, et on sait très bien qu'Abraham va douter quand il va aller vers Agar pour avoir un enfant. Malgré la promesse, il va douter, mais il fut déclaré juste, parce que Dieu l'a déclaré juste, et que lui a mis sa confiance en Dieu. Ça n'a pas dit un chemin tout droit. Et Paul continue de manière très très fine en citant la loi, sur qui repose cette foi ? Sur celui qui va s'humilier pour nous tous, sur celui qui va faire de nous la vraie postérité promise à Abraham. Et là, Paul va entamer tout un passage, un très long passage, jusqu'au chapitre 4 inclus, sur héritier, fils de la promesse que nous sommes. Mais revenons à cette question, sur qui repose cette foi ? Sur celui qui va s'humilier pour nous. Jésus va être celui qui va accomplir la loi jusqu'au bout. C'est celui qui va être maudit à la croix, puisqu'en vertu de la loi, il sera maudit en tant que pendu au bois. C'est ce qu'il nous rappelle, Paul, au verset 13. Pour nous, il sera malédiction, c'est-à-dire il sera celle que nous aurions dû supporter. Il est ainsi devenu pour nous le péché sur cette croix. À la croix, Jésus est Paul, le persécuteur. Il est Pierre, le lâche, qui l'abandonnera, le reniera. Il est moi. Il est vous, il est nous tous, à la croix, qui croyons. Il faut bien comprendre là qu'il y a un échange important qui se passe, qui est primordial pour notre vie en tant que croyants, notre vie dans la foi chrétienne, qui doit nous faire comprendre la mesure de l'amour de Dieu. Il y a un échange. Il a été traité comme nous le méritions, nous, sur la croix. Lui le juste, le parfait, le fils que Dieu aime. Il a été crucifié, trahi, abandonné. Il a été traité comme nous aurions dû être traités. Il a pris notre malédiction, traité comme nous le méritions, mais en retour, Dieu nous traite comme Jésus le mérite. Il prend plaisir en nous. Parce qu'il nous voit et il voit Jésus en chacun d'entre nous. Comprenez bien cet échange. Jésus a été traité comme nous le méritions, mais Dieu nous traite comme Jésus le méritait. Dieu prend plaisir en chacun d'entre nous. C'est ainsi que la bénédiction promise à Abraham s'étend sur nous. Et c'est une bénédiction, pas d'un jour, pas d'un instant, pas d'une conversion. C'est une bénédiction pour la vie. Conclusion, le piège dans lequel les Galates sont tombés peut nous guetter aussi. Ne soyons pas conduits par une conception minimaliste de la justice de Dieu, celle d'être pardonné et sauvé, et que finalement, ben, le reste, et maintenant il faut ramer, et ça dépend de nous. C'est le meilleur moyen de rechercher des performances spirituelles, où tout va dépendre de ce que moi j'accomplis. Je vais chercher à être accepté sans arrêt, aimé sans arrêt. Dans la Genèse, n'oublions pas que la chute a commencé par le doute insinué dans le cœur de l'homme sur la confiance qu'il pouvait avoir en Dieu. Dieu a-t-il réellement dit ? De nous, nous pouvons douter sans problème, mais de Dieu, non. Nous pouvons avoir confiance en lui. Pour tous, la vie ne consiste pas à justifier sa propre existence par des succès, par des réussites, par la famille, par la performance, par un accomplissement de soi, de tout ça, au moment de l'épreuve, au moment difficile, qu'en reste-t-il ? Tout passe. Un sportif performant, il aura une médaille. Qui se souvient du médaillé du 200 mètres olympique de 1994 aujourd'hui ? Qu'est-il devenu ? Mais Jésus-Christ est le même hier qu'aujourd'hui. La foi seule en Jésus-Christ, la manière de vivre la vie chrétienne est la même manière que d'y rentrer. Le vrai repos est là. Car rien ne repose sur moi, mais sur celui qui s'est donné, sur Jésus-Christ. Ainsi, nous recevons cette triple bénédiction à vie. La justice de Dieu, sa faveur, le Saint-Esprit qui nous régénère et qui renouvelle en permanence la présence de Dieu en nous, et la vie éternelle. Tout cela sont les fondements de notre vie chrétienne. Notre vie a un sens, elle a un but. Et regardons à cet aspect de la justice de Dieu à notre égard. Ne nous limitons pas simplement à l'idée de pardon et de sauver, mais pensons que nous avons tout en Jésus-Christ. Alors, vraiment, la loi va devenir ce qu'elle doit être vécue par la foi en Jésus-Christ. La loi en Jésus-Christ n'est pas « tu dois », mais « tu aimeras ». Ces deux fameux commandements tirés de Deutéronome et du Lévitique, « tu aimeras le Seigneur et tu aimeras ton prochain », nous pouvons enfin les mettre en pratique, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour chacun d'entre nous. Cette relation d'amour, c'est lui qui l'a restaurée. Et nous pouvons maintenant accomplir la loi, nous pouvons vivre cette loi qui n'est pas une « tu dois » mais « tu aimeras » dans une relation d'amour. Je comprends par la foi qu'il a payé Jésus pour cela et que son immense amour n'est pas l'amour d'un instant mais un amour éternel pour chaque jour et pour toujours. Je vis et je pratique ce que Dieu veut pour moi, ses commandements dans l'amour et la confiance en Jésus. Alors oui, vivons une vie renouvelée qui s'appuie chaque jour, non pas sur moi, mais sur Jésus seul. Et c'est là ce que Paul veut dire aux Galates. Mais n'allez pas dans des voies sans issue. Revenez vers ce qui fait l'essentiel de votre vie, la foi en Jésus-Christ, celui qui vous a été présenté, Dieu venant vers vous avec amour et passion. Et appuyez-vous sur lui. Prenez avec vous les promesses du psaume 145, vous lirez, je vous conseille le psaume 145. Vous verrez toutes les qualités qui sont décrites dans le psaume 145 concernant le Seigneur et sur qui nous pouvons nous appuyer. Il est dit qu'il est bon, qu'il est juste, qu'il est plein de grâce, compatissant, éternel, fiable, plein d'amour, un soutien. Il relève, il nourrit, il comble, il est proche, il entend les cris, il délivre, il garde ce qu'il aime. C'est pas d'un instant, c'est pour toute une vie, ça. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire que c'est vrai, parfois nous oublions que c'est toute notre vie qui repose en toi. Et nous voulons, Seigneur, nous reposer encore aujourd'hui. Ne pas nous fatiguer inutilement, mais venir en toi chercher la force, l'amour, la paix, la joie, tous ces fruits de l'esprit que tu développes. En nous, Seigneur, nous venons les chercher auprès de toi, car nous savons que tu es inépuisable en amour pour nous. Alors, Seigneur, pardonne-nous chaque fois que nous cherchons à nous justifier, à nous rendre aimables aux yeux des autres par nos propres forces, en voulant nous faire valoir, peut-être parfois aussi au détriment des autres. Seigneur, nous nous confions en toi et nous te demandons pardon pour nos écarts. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu.